Où en est le féminisme aujourd'hui? En fonction des personnes que l'on écoute ou que l'on suit, on peut avoir une vision très différente du féminisme et des combats qu'il reste à mener. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai souhaité faire le point pour savoir quelles ont été les avancées récentes, quelles sont les barrières qui persistent et les actions à prendre pour parvenir à l'égalité des droits. Et qui mieux qu'Anne-Cécile Melfer, la fondatrice de la Fondation des femmes, pour répondre à ces questions. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Louise.
Je suis très contente de te rencontrer. Ça fait longtemps d'ailleurs que je souhaitais qu'on échange ensemble. Quoi de mieux que cette journée du 8 mars pour pouvoir faire un état des lieux finalement du féminisme aujourd'hui et surtout de pourquoi il est encore nécessaire, parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui se posent la question. Donc est-ce que déjà tu peux toi nous présenter rapidement qui tu es et finalement ce qui a fait naître cet engagement féministe?
Moi je suis Anne-Cécile Melfer, j'ai cofondé la Fondation des femmes il y a 8 ans aujourd'hui.
Ah, joyeux anniversaire!
Ouais, bon anniversaire. Et donc je suis militante féministe à la base et je me suis rendu compte dans mon engagement militant, dans des associations où on venait en aide directement à des femmes qui sont dans des situations hyper difficiles, mais aussi dans un engagement où j'ai pu côtoyer d'autres associations, j'ai vu qu'en fait, on faisait face à des problèmes énormes, incroyablement graves, comme par exemple une femme qui est en danger de mort et qui vient te voir, et tu sais, ok, du coup là, c'est hyper grave, comment je fais? Et tu te rends compte qu'en fait, la police, c'est pas top, que les associations, elles ont pas forcément les moyens de l'héberger, qu'il y a pas ce qu'il faut. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument parler de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas pouvoir régler ce problème et venir en aide aux femmes qui en ont besoin et les protéger comme elles le méritent s'il n'y a pas des moyens financiers. Et donc, j'ai créé la Fondation des femmes parce qu'il n'y en avait pas de Fondation des femmes. Il y avait, j'imagine que toi, ça t'est jamais arrivé, des gens dans la rue, tu sais, ils viennent te demander de l'argent pour telle ONG, telle maladie, les animaux, tout ça, c'est hyper bien. Mais jamais personne, j'imagine, n'est venu te demander 10 euros.
C'est
pour
vrai.
Les droits des femmes. Et pourtant, je suis sûre que tu aurais donné 10 euros.
Oui.
Et donc,
je vais maintenant, il n'est jamais trop tard.
Sur fondationdesfemmes.org, c'est hyper facile.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé la Fondation des femmes. On s'est dit, il y a plein de besoins. Il y a plein de femmes qui ont des besoins pour, parce qu'elles traversent des périodes très difficiles dans leur vie. Il faut les aider. Et de l'autre côté, il y a plein d'autres personnes qui seraient OK pour les aider et même donner 10 euros par mois. Mais juste, personne ne leur a jamais demandé. Personne n'a fait ce lien entre ces deux mondes, entre celles qui peuvent et celles qui ont besoin. Mmh. Et c'est ça l'objet de la Fondation des femmes que j'ai créée. Il y a 8 ans.
Ouais. Voilà. Il y a quelques années aussi, tu as donné un TED Talk à Polytechnique.
Ouais.
Et j'ai trouvé la façon d'introduire excellente. Est-ce que tu peux nous partager, là, aujourd'hui, si on devait inverser les rôles, si on devait parler, si on vivait dans une situation et dans une société où les hommes étaient victimes des mêmes inégalités, où est-ce qu'on en serait et quelle serait, eux, leur vie pour qu'on se rende compte, finalement, de ce qui reste à parcourir?
Waouh, alors ça c'est un exercice. Par exemple sur l'avortement, il y a des grandes féministes américaines qui ont des expressions du genre si c'était les hommes qui devaient avorter, il y aurait autant de centres IVG que de distributeurs automatiques d'argent.
Préservatif.
Mais oui. Voilà. Mais typiquement en fait, c'est sûr que quand on se rend compte là où en sont les femmes, c'est-à-dire que c'est comme si demain les hommes on devait contrôler et juger avec qui y couchent, juger ce qu'ils mettent, trouver qu'en fait leur Bermuda est un peu court. Et du coup, si jamais ils sont agressés, mais c'est normal, est-ce que tu as vu la taille du mollet qu'il essaie de dépasser de son Bermuda? Et puis le petit stagiaire qui est bien mignon et regarde ses petites fesses. Et donc du coup, on le trouve bien mignon, mais par contre, on va pas lui donner une augmentation et on va pas le faire monter les échelons. Et les gros dossiers, on va se les passer entre femmes. Hein, on va se garder les bons dossiers de l'entreprise entre nous. Et puis, on va prendre des décisions aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, la vasectomie, finalement, nous qui sommes en majorité des femmes à l'Assemblée nationale, on va décider qu'en fait, la vasectomie, c'est nous qu'on dit. Quels hommes ont le droit de faire des vasectomies et quels hommes n'ont pas le droit de faire des vasectomies, parce que finalement, c'est nous qui décidons sur les corps des hommes. Donc voilà, ce serait un peu ça si on devait inverser les choses. Et quelques...
Et qu'est-ce que tu dirais aux hommes peut-être qui nous écoutent, qui disent, c'est vrai qu'il y a quelques années, voire il y a quelques décennies, on avait encore besoin du féminisme, mais je ne comprends pas pourquoi le 8 mars, il y a encore des femmes dans la rue qui manifestent pour leurs droits et contre les inégalités.
Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi on en est encore à manifester. Alors que pourtant, tous les rapports le montrent, tous les chiffres le montrent, tous les témoignages de femmes le montrent. La situation est inégalitaire entre femmes et hommes. Les femmes gagnent moins que les hommes. C'est encore pire quand elles sont à la retraite. Les femmes sont plus, beaucoup plus victimes que les hommes de tout type d'agressions sexuelles et sexistes. Tous les rapports le montrent, tous les chiffres, tous les témoignages. Et du coup, effectivement, moi aussi, je me demande pourquoi on en est encore là. Eh bien, on a besoin du 8 mars justement parce qu'on a besoin d'un moment dans l'année où on peut faire le bilan et on peut aussi dire ce qu'on a envie, ce qu'on propose pour l'avenir. Et tant qu'on n'est pas en position vraiment de décider, de pouvoir, tant que on n'a pas changé la société, malheureusement, on aura encore besoin du 8 mars pour se rappeler les luttes, pour faire le bilan et puis pour proposer aussi des choses pour l'avenir.
Alors justement, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire en sorte que cette journée n'ait plus lieu d'être?
Alors, moi, il y a deux. Alors, il y avait le sujet de l'IVG dans la Constitution, mais ça, voilà, on va du coup.
Une victoire, c'est important.
Un truc en moins pour
aussi.
Le 8 mars.
Ouais.
Bien qu'il faut encore améliorer l'accès à l'IVG, mais c'est quand même énorme ce qu'on a gagné. Donc, ça, on peut s'en féliciter. Je pense qu'on fera la fête, du coup, le 8 mars aussi dans la rue pour ça. Mais deux autres sujets qui, pour moi, sont absolument essentiels dans la période que nous traversons, c'est le sujet de la précarité des femmes. Dans la société, ce sont les femmes qui sont les plus précaires, parmi les précaires. Ce sont les femmes qui gagnent moins, ce sont les femmes qui ont les métiers les plus, les moins sécurisés. C'est elles qui sont plutôt en CDD, qui sont plutôt à temps partiel, qui sont plutôt sur des contrats courts, dans des horaires vraiment complètement merdiques. Par exemple, quand elles font le ménage, ça va être vraiment très très tôt le matin, très tard le soir. Et elles ont vraiment des salaires de misère alors qu'elles font un travail absolument essentiel. On l'a vu pendant le Covid. À ce moment-là, on disait ce sont les femmes en première ligne, parce que oui, dans les hôpitaux, ce sont surtout des femmes qui prennent soin, en fait, de notre société, qui prennent soin de nous, des humains sur cette planète. Donc ça, cette précarité des femmes, elle est hyper... pour moi, c'est un enjeu énorme, d'autant plus qu'il y a l'inflation. Et qui paye pour le quotidien ? Dans les couples hétérosexuels, quand on regarde, ce sont les femmes qui vont faire les courses. Et souvent, lorsqu'il n'y a pas de compte joint, c'est souvent madame qui va faire les courses, qui va acheter les pots de yaourt. Et pendant ce temps, monsieur, il va payer le crédit de la maison. Et lui, le crédit de la maison, il n'y a pas d'inflation sur ce crédit-là. Mais c'est madame qui va continuer à faire des courses. Et le moment où il se sépare, donc elle a des dépenses qui vont augmenter avec l'inflation. Si un jour il se sépare, et ça c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, ce qu'on voit, c'est que le niveau de vie des femmes chute dramatiquement. C'est-à-dire que 2 ans après, elles ont encore 20% de niveau de vie en moins comparé au niveau de vie qu'elles avaient en couple. Et les hommes, 2 ans après la séparation, on voit qu'ils commencent à remonter, qu'ils commencent à avoir un meilleur niveau de vie. Donc on voit là une dynamique qui est où en fait les femmes, elles vont, après une séparation, souvent avoir la garde des enfants, continuer à faire toutes ces dépenses. Après la séparation, elles se trouveront avec des pots de yaourt vides. Voilà ce qu'elles auront gagné de leur couple, alors que monsieur peut-être aura été propriétaire de la voiture qu'il aura payé lui-même dans le couple. Et ça, ce sont des répartitions de dépenses que les femmes payent très cher lorsqu'elles sont séparées. Et les femmes chefs de famille monoparentales, c'est un sujet énorme également parce que c'est souvent elles qui ont la garde des enfants, qui ont donc les dépenses aussi des enfants. 40% des hommes ne payent pas la pension alimentaire et donc ça veut dire que ce sont les femmes qui doivent payer pour tout ça. Ce sujet-là, il est très 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 important. C'est un sujet d'égalité, aussi d'émancipation. Si les femmes n'ont pas les moyens de leur liberté, ça va être beaucoup plus difficile pour elle. Le deuxième sujet qui me paraît particulièrement important en ce moment, c'est le sujet des violences sexuelles. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en entend parler, hein. Mais avec les témoignages de Judith Godrèche, heureusement, ça nous aide à remettre ce sujet-là sur le devant de la scène. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes, elles parlent. Ça fait combien de témoignages ? Combien de hashtag MeToo ? Combien de femmes qui disent ce qu'elles ont vécu ? Combien de femmes sur les réseaux sociaux disent ce qu'elles disent à la fois du harcèlement, du cyberharcèlement, des violences sexuelles, etc. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme grande avancée ? Ils sont où les changements ? Il y a toujours 1%, moins de 1%, pardon, des violeurs qui sont condamnés. Alors qu'il y a 126% de plaintes en plus pour viol dans notre pays depuis MeToo. Donc il y a des trucs qui n'ont pas bougé, c'est la justice par exemple. Et les trucs qui n'ont pas assez bougé, c'est la police. Il y a eu des petites améliorations, des formations, mais en vrai, il faudrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Et la France peut faire vraiment beaucoup mieux. On est très en retard, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne regarde que soi, on ne regarde que son nombril. Mais j'ai fait un voyage de 3 semaines aux États-Unis pour étudier ce qui se passe là-bas sur les violences sexuelles. Et je peux vous dire que depuis 1994, donc ça fait très 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 longtemps, il y a des politiques de lutte contre les violences sexuelles avec des associations, avec des lieux, par exemple, ils recueillent la parole des victimes dans des lieux qui sont extrêmement cosy, avec des fauteuils comme ça, par exemple, et on demande une seule fois à la victime de dire ce qu'elle a vécu, pas 10 fois, et dans des salles d'interrogatoire hyper froides et hyper moches comme en France. Non, on les met à l'aise, on est centré sur les victimes, on comprend le trauma. Et en France, on en est encore malheureusement bien loin. Vas-y. C'est ces deux aspects vraiment sur la précarité des femmes et sur les violences sexuelles sur lesquelles il faut vraiment avancer en France.
J'ai une dernière question pour toi, à savoir comment expliquer cette augmentation du sexisme. En tout cas, c'est ce que montre le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu un choc.
Ouais.
Parce qu'en plus, de par les bulles de filtre qu'il y a sur les réseaux sociaux, moi j'avais l'impression que tout le monde était féministe. Que, enfin, tu vois, quand même, on en parle plus, tu vois, même médiatiquement, etc. Comment expliquer que pourtant, on ne va pas forcément dans la bonne direction ?
Oui, c'est extrêmement inquiétant. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que surtout sur les jeunes, les 16-25, 16-30, on va voir en fait, les filles et les garçons ne pensent pas pareil. Vraiment pas pareil. À force d'être attirés par des contenus et de recevoir avec les algorithmes que des contenus qui sont similaires et qui vont renforcer l'opinion qu'on a, les garçons vont de plus en plus renforcer. Ils vont regarder peut-être un mec qui fait de la muscu, puis un coach en séduction. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont voir que ça, avec des discours qui sont très machistes et de plus en plus machistes. Et ils vont du coup avoir une vision du monde qui va être cette vision-là. Et ils vont de plus en plus avoir des opinions très ancrées, très fortes sur le fait que quand même, les femmes, ça suffit. Et puis, on ne peut plus draguer tranquille. Et puis, bientôt, on ne pourra même plus coucher avec des filles. Et puis, les féministes, elles nous ont pris beaucoup de choses. Et elles veulent prendre toute la place. Et il n'y a plus rien pour les hommes. Donc ça, c'est les idées qui circulent en ce moment dans ces sphères machistes. Et que de plus en plus de jeunes hommes adhèrent à ces idées-là parce qu'ils sont complètement embrigadés là-dedans. Et de l'autre côté, par contre, les filles, elles vont regarder, vont te regarder, elles vont regarder d'autres personnes qui vont plutôt, leur offrir d'autres types de contenus. Et on voit vraiment une différence d'opinion extrêmement marquée aujourd'hui entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes hommes qui vont même se mettre à désirer que leurs amis, que leurs sœurs ou que leurs petites amies aient moins de droits qu'elles n'en ont aujourd'hui et aient moins d'égalité, qu'il y ait moins d'égalité. Et ça, c'est peut-être la première fois qu'on voit le fait que les jeunes générations d'hommes sont moins progressistes que les plus vieux. Les 35, 40, 45, 50, ils ont progressé grâce à MeToo, ils ont compris des choses sur le consentement. Et on voit que les jeunes générations, malheureusement, pas tous évidemment, hein, mais il y a ce mouvement-là dans les jeunes générations qui est assez inédit. On a l'impression que finalement, on a des jeunes générations un peu réac. Tu vois un exemple très concret de ce qui se passe après politiquement, du coup. En Argentine, il y a un président qui a été élu il y a quelques mois, il s'appelle Javier Milei. C'est un président qui est un peu comme Trump, très grossier, hyper macho, qui dit qu'il ne faut pas qu'il s'excuse d'avoir un pénis, que lui, il roule des mécaniques, il est hyper macho. Et il a, dans son programme, quasiment en numéro un, il y avait revenir sur le droit à l'avortement que les Argentines ont conquis en 2020. 70%. 70%. Des jeunes hommes ont voté pour lui. C'est la catégorie de la population argentine qui a le plus voté pour lui. Et il est vraiment, c'est-à-dire le machisme, c'est son programme. Et ça, c'est flippant.
Ça, c'est inquiétant.
Ouais.
Alors, j'aime pas terminer sur une note, tu sais, négative.
Mais on a gagné l'IVG dans la Constitution.
Voilà.
Ça, c'est bien.
Et finalement, pour faire bouger les choses, quand même, un des meilleurs moyens de le faire, c'est de soutenir la Fondation des Femmes. Parce que, en fait, vous soutenez, moi, c'est ça que j'ai trouvé génial. C'est de part, vous êtes un peu comme un matriarche qui va permettre ensuite de rediffuser les financements et les soutiens à toutes les associations sur le terrain. Donc, en fait, si on sait pas qui soutenir, parce que souvent, on se dit, moi, c'est un peu le cas, bah, est-ce que tu te souviens de la DSF? Est-ce que tu te soutiens un tel autre asso, en fait, vous permettez de financer toutes les associations qui œuvrent pour les femmes. Donc, c'est un super moyen quand même de faire bouger les choses.
Ben oui, soutenez la Fondation des Femmes. On est effectivement cette espèce d'organisation ombrelle et on reverse des fonds, par exemple, pour financer des nuitées d'urgence partout en France pour les femmes victimes de violences, des déménagements solidaires. Mais on peut aussi financer des actions de sensibilisation des jeunes pour aller former les jeunes hommes dans les écoles, aller leur parler. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi financer partout en France pour améliorer la situation.
Bah merci et bravo. Bravo pour votre action. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et à très bientôt, Anne-Cécile.
Merci.
Un grand merci de nous avoir rejoints pour cette conversation. Si elle vous a plu, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @AnneCécileMelfert et @MyBetterSelf, pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 350 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.